entend comme François de Sales est tout à fait remarquable. Il a dit « Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû et qu'ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. » L'apôtre Pierre acquiesce sans hésitation à cette observation sur la nature humaine, car sa dévotion pour les autres est sans limite. Je commence de lire le chapitre 5 de sa première épître. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. » Le mot pour « recommandation » signifie « appeler à côté de »,« encourager ». Ce mot est souvent associé au ministère du Saint-Esprit. Le mot pour « responsable » a donné « presbytère » en français et signifie « surveillant », qui est une fonction dans l'Église. Pierre comprend leurs difficultés étant lui-même responsable comme eux, une expression qui a un seul mot en grec et qui veut dire « collègue surveillant ». L'autorité de Pierre provient de son expérience personnelle, mais aussi de ce qu'il est apôtre et témoin des souffrances du Christ. Pourtant, il ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres responsables d'Église, alors qu'il aurait pu profiter du respect qu'on lui porte pour faire briller son image de marque. Il choisit de se mettre au même niveau que les autres anciens et de compatir à leur lourdeur de leur charge. Pierre se désigne également comme quelqu'un qui a aussi part, qui va participer à la gloire qui va être révélée. En compagnie de Jacques et Jean, Pierre a assisté à la transfiguration de Jésus. Mais cette gloire qu'il a vue sur la montagne n'est rien comparée à celle qui sera manifestée quand le Seigneur reviendra en force avec tous les anges pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Les persécutions que les croyants subissent déjà dans la première moitié du premier siècle amènent Pierre à exhorter les responsables d'Église à prendre au sérieux leur rôle de berger envers leurs brebis désemparées. Je continue le texte. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire, faites-le, non pour un gain sordide, mais par dévouement. Autre, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Dans l'Évangile selon Jean, on apprend que c'est Jésus ressuscité qui a donné à Pierre l'ordre de prendre soin du troupeau de Dieu. Par cette lettre, l'apôtre remplit ce rôle de pasteur des pasteurs. Il faut savoir que l'Église primitive adopta la même structure que les synagogues. Chaque assemblée nomme un collège d'hommes pieux et compétents qui doivent surtout être éloquents par leur mode de vie exemplaire. Les responsables d'Église, où le responsable d'église n'est pas un politicien qui essaye de plaire en disant à ses ouailles ce qu'elles veulent entendre. Son rôle est de veiller sur le troupeau, de le diriger, de le surveiller et de le nourrir par un enseignement fidèle à la vérité des Écritures afin d'édifier les croyants et de les protéger contre l'erreur et les péchés. L'ancien doit éviter tout écueil. Le premier est d'accepter cette charge parce qu'il se sent forcé, obligé, alors que ce doit être un élan du cœur et un appel de Dieu. En second lieu, il doit être motivé non par un intérêt douteux, mais par un esprit de service. L'expression « gain sordide » désigne l'enrichissement honteux des faux prophètes qui manipulent les brebis pour leur extorquer de l'argent. ce sont des faux bergers, des charlatans et des hérétiques qui se font passer pour des serviteurs de Dieu afin de s'enrichir aux dépens de leurs victimes. Il ne faut pas que l'ancien confonde ses brebis avec des vaches à lait. Au contraire, il doit toujours se montrer désintéressé. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit qu'il est prêt à se dépenser sans compter. Mais cela ne veut pas dire que les pasteurs doivent faire le vœu de pauvreté et vivre dans la misère, car il ne faut pas les confondre avec un ordre de moines mendiants. D'ailleurs, concernant ces derniers, même s'ils ne possèdent rien en propre, ils ne leur manquent rien non plus, et en plus, ils habitent souvent dans un cadre paradisiaque. En troisième lieu, le berger ne doit pas chercher à dominer les brebis, à l'exemple de Diophès que mentionne l'apôtre Jean dans sa troisième épître. Plutôt que de faire l'important et de tirer un avantage de sa fonction, le responsable d'église doit être un exemple. Toute forme de gestion autocratique et tyrannique qui utilise la démagogie et l'intimidation est une perversion de la fonction pastorale, parce que l'ancien doit toujours bien garder à l'esprit que le troupeau qui est sous sa garde lui a été confié. Il ne lui appartient pas, mais appartient au Seigneur. L'ancien doit donc être un modèle de tendresse et dirigé par son exemple et donc par une vie vertueuse. Je continue de lire dans le chapitre 5 de la première épître de Pierre. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. À cette époque, le vainqueur d'une épreuve sportive ne reçoit pas un trophée ou une médaille comme aujourd'hui, mais une couronne de laurier qui sèche rapidement. Évidemment, Pierre désigne Jésus comme le chef des bergers. Et dans le livre d'Ézéchiel, Jésus est appelé le vrai berger. Et dans l'évangile selon Jean, le bon berger. Et dans l'épître aux Hébreux, le grand berger. Quand le Seigneur reviendra, ses aides-bergers qui ont été fidèles partageront sa gloire et recevront une couronne incorruptible qui resplendira pendant toute l'éternité. Les croyants qui œuvrent pour le Seigneur ne travaillent pas pour rien, car ils recevront des récompenses. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, Paul mentionne aussi la couronne de gloire. Dans sa seconde lettre à Timothée, il parle de la couronne de justice, et Jacques, dans son épître, mentionne la couronne de vie. Toutes ces différentes couronnes décrivent différentes facettes de la bénédiction éternelle que recevront les élus qui auront été fidèles à leur maître. Je continue le texte du chapitre 5. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous. Dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux hommes. » Pour étayer son exhortation, Pierre cite un passage du livre des Proverbes selon l'ancienne version grecque. Au premier siècle, et tout comme dans les synagogues, les responsables des églises sont choisis parmi les hommes les plus âgés. Les membres de l'Église, et en particulier les jeunes, doivent se placer volontairement sous leur autorité. Le verbe « pour se placer sous » est un terme militaire, et il est à l'impératif. C'est donc un ordre. Dans le même ordre d'idée, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie, et non pas en gémissant, ce qui serait pour vous d'aucun avantage. Tous, jeunes et vieux, reçoivent l'ordre, revêtez-vous d'humilité. Le verbe « se revêtir » signifie « attacher quelque chose sur soi », et il a pour racine le nom du tablier que porte un esclave. Le mot pour « humilité » veut dire « abaissement de soi » et correspond à quelqu'un qui sert les autres de bon cœur. Quand Pierre écrit ces lignes, il a probablement à l'esprit Jésus, le jour où il a mis un linge autour de sa tâche, de sa taille, avant de laver les pieds de ses disciples. Cet acte, de sa part, était tout à fait révolutionnaire, parce qu'au premier siècle, les païens et même les juifs ne considèrent pas l'humilité comme une vertu, mais comme une faiblesse ou un signe de lâcheté. Je continue. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. La main puissante de Dieu apparaît fréquemment dans l'ancienne version grecque de l'Ancien Testament. Cette expression décrit généralement la délivrance des Hébreux hors d'Égypte, mais c'est aussi un rappel que Dieu peut intervenir dans les affaires humaines pour le bénéfice de ses enfants qui souffrent, surtout si c'est à cause de leur foi, ce qui est le cas des lecteurs de cette épître. Pierre les exhorte donc à ne pas répondre à l'injustice de ceux qui les oppriment, verbalement ou autrement, mais d'accepter cette humiliation comme une discipline venant de Dieu, car au moment voulu, il les retirera du creuset de l'adversité. Par contre, faire justice soi-même, c'est rejeter la grâce bienveillante du Seigneur et sa délivrance quand l'épreuve aura accompli son objectif. Je continue. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le mot pour décharger signifie jeter quelque chose sur autre chose ou sur quelqu'un, comme jeter une couverture sur un animal. Quand Pierre écrit ces lignes, il pense peut-être aux paroles de l'auteur du psaume 55 qui dit « Rejette tout fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. » Les croyants doivent rejeter sur le Seigneur tout ce qui les perturbe, quoi que cela puisse être. La crainte, le doute, le découragement, peu importe, tout ce qui les tient en souci, parce qu'ils peuvent compter sur son amour, sa fidélité, sa puissance et sagesse. La confiance du croyant repose sur la certitude que Jésus œuvre pour son bien-être, même si momentanément il souffre, comme c'est le cas des lecteurs de Pierre. Matthieu rapporte que le Seigneur a dit aux foules qu'ils le suivent. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Et dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. » Je continue le texte. Soyez sobre, soyez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. On a déjà rencontré le mot « soyez sobre » dans la première épître du chapitre quand Pierre dit à ses lecteurs « En menant une vie sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Ici, le verbe traduit par « soyez sobre » est un impératif. À l'origine, il se rapporte à la maîtrise de soi dans le domaine de la boisson, Mais dans le Nouveau Testament, il vaut plus te dire « Soyez disciplinés dans vos pensées ». Pierre ordonne donc à ses lecteurs d'être sur le qui-vive à cause de l'ennemi qui rôde. Et pour renforcer son avertissement, il ajoute « Soyez vigilants », qui est aussi au mode impératif. Paul utilise également les deux mots « sobre » et « vigilant » dans sa première épître aux Thessaloniciens quand il écrit « Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres » dans les Écritures. Le diable est considéré comme l'adversaire permanent de Dieu et l'ennemi personnel des croyants. Le diable dirige le royaume des ténèbres et gère le système corrompu de ce monde. Infatigable, il ne se repose jamais, tel un prédateur qui est constamment à la recherche d'une proie facile. Il rôde, il cherche, il renifle. Pierre compare Satan à un lion rugissant qui cherche à dévorer quelqu'un. Le mot pour dévorer signifie engloutir, et l'objectif du diable est de détruire, ou tout au moins de rendre les croyants infructueux. Dieu utilise une métaphore, mais d'un autre côté, les rugissements du lion qui terrorise et paralyse sa proie correspondent aussi aux calomnies et aux persécutions qui intimident ou effraient les croyants. D'autre part, à Rome, au 1er siècle, ont lieu des spectacles sanguinaires où des condamnés à mort sont déchirés par des fauves pour amuser le peuple romain. Et beaucoup de chrétiens finissent ainsi. Cela dit, vous aurez peut-être un jour affaire à des démons, mais vous ne rencontrerez jamais Satan en personne, car il a d'autres chats à fouetter que vous pour être du menu fretin. On trouve le diable dans les chancelleries, les ambassades, dans les couloirs que fréquentent les grands du monde politique ou de la religion. Satan encourage souvent les hommes à faire le bien et les berce d'illusions sur leur propre compte. La plupart de nos contemporains croient pouvoir gagner le ciel simplement en ne faisant pas de mal, en s'occupant bien de leur famille, en respectant la loi et en donnant de temps en temps un bout de pain à un miséreux. Ces idées leur sont insufflées par des démons, et quand ils les gobent, ils ne ressentent pas le besoin d'un sauveur. Je continue le texte. Résistez-lui au diable en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés au travers du monde connaissent les mêmes souffrances. Le mot pour résister est un impératif qui est également utilisé par Jacques quand il écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Littéralement, Pierre dit « Prenez position contre le diable et renforcez votre position par la foi. » Cette exhortation fait penser à une armée qui se tient compacte face à l'ennemi. Les croyants doivent se soutenir mutuellement et lutter ensemble. Chacun doit se revêtir de l'armure de Dieu que l'apôtre Paul décrit dans son épître aux Éphésiens, dans lequel il écrit « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » La soumission à Dieu et la fermeté dans la foi sont les deux armes défensives qui permettent de mettre les démons en fuite. Comme Satan est menteur et séducteur, le seul moyen de lutter contre lui est d'obéir fidèlement à l'enseignement des Écritures. Je continue le texte. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La souffrance des croyants persécutés ne dure qu'un peu de temps, qui n'est absolument rien, comparée à la gloire en Jésus-Christ qui sera éternelle. Aucun être humain naît une source de gloire, et l'Église glorifiée est comme la lune qui renvoie simplement la lumière du soleil. Pareillement, dans les cieux, la gloire des élus reflétera celle de Jésus. La bénédiction que prononce Pierre résume brièvement le message d'encouragement et d'espérance de toute sa première épître. L'apôtre décrit la maturité spirituelle et l'aboutissement final de la vie du croyant avec quatre mots au sens très proche. Il exprime la force et la stabilité que Dieu désire pour chaque croyant. Il veut les établir fermement sur la vérité de la révélation divine, et ils se tiennent dans la foi et l'espérance jusqu'à leur arrivée dans la gloire éternelle. Je continue le chapitre 5. À lui, Jésus-Christ, appartiennent la force pour toujours. Amen. Pierre utilise le mot « force » plutôt que « puissance » parce qu'il est plus concret, plus parlant et donc plus à même d'encourager les croyants qui souffrent. Cette bénédiction finale est une courte doxologie où Pierre se réjouit de ce que par sa force toute puissante, Dieu domine sur toute chose au siècle des siècles, parce qu'il possède la sagesse, le pouvoir souverain et l'autorité sur toutes ses créatures, en réponse aux exhortations de l'apôtre et des promesses qui leur sont attachées. Les croyants doivent faire constamment monter vers lui leur adoration et leur louange. Je continue. Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. À partir d'ici, c'est Pierre lui-même qui prend la plume, car jusqu'à présent, c'était Sylvain. Aussi appelé Silas, qui en tant que frère fidèle et secrétaire particulier de Pierre, il écrit la lettre sous sa dictée, tout en participant à sa rédaction. On sait aussi que c'est Silas qui porta cette lettre à ses destinataires. Pierre résume ici l'objectif de l'épître, qui est d'encourager les croyants à tenir ferme malgré les souffrances et d'autre part, de les assurer qu'ils sont attachés à la véritable grâce de Dieu. Je continue. Recevez les salutations de l'élu qui est à Babylone et que Dieu a choisi. Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. L'expression « élu qui est à Babylone » est un message codé, car il s'agit en réalité de l'Église de Rome. Comme je l'ai déjà dit, sachant que de sévères persécutions veulent être lancées contre les chrétiens, Pierre veut protéger ceux qui habitent dans l'œil du cyclone. La désignation Babylone rappelle aussi qu'à l'image des Israélites après leur déportation au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu vit un exil parmi les païens. Quant à Marc, il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom et le cousin de Barnabas. Compagnon de Paul dans sa première tournée missionnaire, Pierre appelle Marc « mon fils », mais c'est au sens spirituel du terme, parce que c'est Pierre qui a fait connaître Jésus-Christ à Marc. Je finis de lire la première épître de Pierre. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis au Christ. Le baiser fraternel est la façon dont les croyants de l'Église primitive se saluent et le signe de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Pierre ne souhaite pas la fin des persécutions ou la prospérité pour ses lecteurs, mais la paix de Dieu. Combien de gens, immensément riches, donneraient toute leur fortune en échange de cette paix.